Émilie ?
Oui ?
Assieds-toi, faut que je te parle.
Oh, tu me fais peur.
J'ai enfin rencontré quelqu'un.
Enfin ?
Oui, et je pense que c'est le bon. On s'écrit tous les jours, il répond à tous mes mails et il m'a même fait des tableaux de bord.
Mais tu me parles de qui ?
Bah de mon comptable, tu croyais que je parlais de qui là ?
T'as vu avec ton comptable ? C'est LA phrase quotidienne qui illustre bien la relation de proximité qu'on a avec nos clients. Dans ce podcast, je vous dévoile les coulisses de l'expertise comptable, mais attention, hein, pas le plan comptable, les bilans, les liasses fiscales, celles des hommes et des femmes qui créent, qui se développent grâce à notre accompagnement. Je suis Olivier Den et deux fois par mois, je vous retrouve pour un épisode qui vous fera changer d'avis sur mon métier. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette citation au moins 100 fois et les cabinets d'expertise comptable n'échappent pas à cette règle. Alors qu'il s'agisse d'acquisition ou de fidélisation de nouveaux clients ou encore du recrutement de nouveaux collabs, les experts comptables doivent soigner leur image comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et on n'a pas forcément appris ça dans notre cursus. Alors que vous ayez simplement besoin d'un site internet, de cartes de visite ou tout simplement de conseils, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer Classe 7, à aller voir Sten et toute son équipe. Ils pourront vous proposer des solutions innovantes et pertinentes. Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Aujourd'hui, on est avec David, David Gendron. Alors, ça me fait plaisir parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on accueille un coiffeur derrière le micro de ta vie avec ton comptable. Non, plus sérieusement, pourquoi ça me fait plaisir ? Parce que c'est vraiment un secteur d'activité à part entière. Je pense que tous les experts comptables qui sont en activité doivent avoir, alors sauf si on est spécialisé, machin, mais tous les experts comptables ont bien un coiffeur dans leur clientèle, exactement. Et il y a des spécificités métiers qui sont intéressantes. Vous avez des horaires d'ouverture qui sont ce qu'ils sont, mais l'idée ça va être d'optimiser les créneaux. Enfin, tu vas pouvoir nous dire ça. Comment on fait pour gérer les salariés ou entre guillemets les nanas elles font 10, 20, 30. Alors je dis les nanas, mais t'as peut-être des gars aussi. Hein, mais...
J'en ai sur les 19, j'ai un garçon.
Ouais.
Et donc, on est deux garçons sur les 19.
Ouais. Il y a plein de spécificités métiers, je pense, qui seront intéressantes à aborder. Mais pour commencer, je vais te demander, comme tout le monde le fait derrière le micro, de commencer à te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis ce que tu fais.
Ouais, j'ai 54 ans aujourd'hui, je m'appelle David Gendron. J'ai commencé la coiffure en 2000... Oh non, j'avais 14 ans. Donc c'était en 84. Et j'ai toujours fait de la coiffure. En 96, avec Nadia, on s'est associés et on a acheté notre premier salon. Je tiens à le dire, sans le capital.
Quand tu dis sans capital, c'est-à-dire
sans un sou ? J'avais pas d'argent de côté. J'avais 26 ans, j'avais pas d'argent de côté. On s'est mariés, on a tout fait en 96. On a construit notre capital. Et en 2011, on l'a vendu. Et après, nous avons acheté les salons familiales. On les a achetés. On a fait des emprunts. Et sur Parthenay et Thouars, nous y sommes allés 2 ans. On est revenu au bout de 2 ans pour des diverses raisons. Et après, on a acheté au Sable d'Olonne en 2014, qui a été une affaire un petit peu compliquée. Mais aujourd'hui, notre entreprise, des petits ciseaux, grâce à une belle équipe, grâce à notre façon de gérer, on est très content.
Alors attends, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Et le premier truc, t'as mis direct les deux pieds dedans, c'est que tu me dis, je fais de la coiffure depuis l'âge de 14 ans, quoi.
Ouais.
Donc c'est depuis l'âge de 14 ans.
J'avais 14 ans.
Voilà, c'est pas depuis 14 ans.
J'avais 84 et j'avais 14 ans.
Ouais, parce que c'est vraiment la spécificité de ce métier, mais également d'autres, c'est que la plupart des gens commencent super tôt, quoi.
Maintenant, ils commencent à 16 ans, 15-16 ans.
Parce que la formation pour devenir coiffeur, c'est quoi ? La voie royale, entre guillemets.
La voie royale, aujourd'hui, ça change un peu, mais la nôtre, et je pense que c'est en alternance, donc CAP. Deux ans, on aime bien leur faire une mention complémentaire sur une année. Et après, il y a le brevet, le BP, qui est sur 2 ans. Et au bout de 5 ans, elle commence à être professionnelle. C'est dur, hein. Mais il faut 5 ans d'études pour être.
Pour être efficace.
Pour être autonome.
Parce que la difficulté, c'est comment. Parce que tu vois, moi, j'estime que la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est de pouvoir choisir mon orientation professionnelle relativement tard, voire super tard. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de ma scolarité, ne sachant pas forcément ce que je voulais faire, j'ai fait des études et des choix scolaires qui me permettaient, entre guillemets, de repousser le choix. Tu vois, alors que là, par rapport à ce que tu dis, quand t'as un jeune, alors bien évidemment tu peux le faire plus tard et la société dans laquelle on vit actuellement favorise les réorientations professionnelles, etc., etc. Mais là, en théorie, c'est t'as 15 ans, 16 ans, on y va, on décide et on va vers la coiffure, tu vois. Et on n'est pas en fait sur un métier où t'as 36 possibilités ou alternatives. C'est-à-dire quand tu te lances dans la gestion d'entreprise, il y a 36 trucs dans la gestion d'entreprise. Alors, quand tu fais de la coiffure, tu fais de la coiffure, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour les jeunes, c'est pas une des problématiques, justement. On y reviendra, je pense, dans notre discussion sur les problématiques de recrutement, d'embauche et tout ça. Mais est-ce que, justement, le choix scolaire se fait peut-être trop tôt? Tu vois, c'est...
Ou trop tard.
Ou trop tard, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'en fin de compte, souvent, ce qui a été dit, c'est que si elle est bonne à l'école, il faut qu'elle continue à l'école. Mais aujourd'hui, je trouve que, est-ce qu'on peut, quand il y a une jeune ou un jeune est passionné à 14, 15 ans, on lui dit continue l'école parce que bah, la coiffure, c'est pas un métier. Enfin, c'est pas ce que je veux. Enfin, c'est pas un métier. C'est pas valorisant. C'est qu'on a dévalorisé notre métier pendant des années. Et aujourd'hui, je me donne encore 7 ans pour un, valoriser notre métier, la qualité du travail, enfin, et l'épanouissement des jeunes et de permettre aux jeunes de gagner leur vie dans notre métier. Donc il y a des endroits où ils peuvent aller, puis il y a d'autres endroits où ça sera plus facile. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans l'histoire.
J'y étais, j'ai complètement suivi ton raisonnement, sauf à la fin, où tu dis des endroits où ils peuvent aller. Où ils...
C'est par rapport au...
Au lieu d'accueil ?
Non, mais il y a des formations qui sont plus ou moins bonnes pour eux, pour qu'ils soient bien professionnels et qu'ils vendent leur taux horaire plus important quand même.
Ouais. Alors là, justement, tu mets le doigt sur le taux horaire, mais on va y revenir à toutes ces spécificités de je vais pas dire de rentabilité, mais de modèle économique d'un institut. On parle d'un institut, non, on parle d'un
salon.
D'un salon, pardon. D'un salon, voilà, comment on rentabilise un salon. Toi, à l'origine, tu me parles de passion, donc t'es allé vers ce métier par passion, par attrait. Par passion vraiment des cheveux et de la coiffure ou par l'entrepreneuriat?
Je suis artisan.
Ouais.
D'accord. Je suis artisan à la base. C'est qu'en fin de compte, je souhaitais soit être coiffeur, mais mes parents étaient coiffeurs. Soit être coiffeur, mais bon, c'est ça voilà. Mais j'ai 3 enfants, ils sont pas coiffeurs. Ils ont pas envie. Je voulais être coiffeur, parce que je m'ennuie à l'école. Ou être pilote d'hélicoptère. Voilà.
C'est pas tout à fait les mêmes études, je crois.
Non, voilà. Mais après, voilà. Et aujourd'hui, je suis toujours aussi passionné à 54 ans que quand j'ai commencé à 14 ans. Donc, pourquoi? Ben, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la création de volume, la matière, les gens. J'aime bien avoir un échange avec les gens, leur donner le sourire. On fait partie d'un petit peu de leur bien-être. On l'a vu pendant le Covid, hein. Ils nous ont fait rouvrir parce que les gens avaient un manque de coiffeurs, un manque de ils se retrouvaient pas dans leur miroir au bout de 2 mois.
Ouais.
Donc je pense qu'on a on a une belle place si on veut vraiment se donner les moyens de donner le sourire aux femmes.
Mais vous aviez été nommé ou catégorisé comme première nécessité pendant le Covid.
Mais c'est ça en plus, hein, c'est pas. On a été nommé, c'est qu'en fin de compte, ils se sont rendu compte que les gens avaient besoin. Et c'est vrai qu'on a été les seuls à rouvrir, en fait.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on dit tout le temps. Moi, mes parents étaient aussi dans la médecine et ils disaient toujours, en fait, quand quelqu'un est malade ou on est des trucs de première nécessité, c'est de se laver, de manger et de se faire propre, quoi. Et en fait, se coiffer et se couper la barbe et les cheveux, machin, c'est aussi se faire propre indirectement. Ça fait partie des besoins vitaux, quoi.
Aujourd'hui, c'est vrai que, bon, après, c'est ma vision, mais bien coiffé et bien chaussé, ça donne tout de suite une belle personnalité.
Ouais.
Eh si.
Ouais, non, mais alors...
Je ne prêche pas pour ma paroisse.
Moi, en fait, là-dessus, c'est un peu de l'éducation aussi. Et moi aussi, je me fais engueuler par ma mère quand j'ai des crolles autour des oreilles et que j'ai pas été voir le coiffeur depuis trop longtemps. Et puis les chaussures, moi, j'aime bien ça. En plus, on a la chance d'être dans un secteur géographique où il y a des chausseurs, hein, du Roturo et compagnie, du Freelance. Ça fait partie des belles marques de chaussures. Et bon, après, tout le monde n'est pas fan de ça, mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Pour rentrer un petit peu directement dans ton cursus perso pro, j'imagine que tu es bien évidemment passé par l'apprentissage et le salariat dans un premier temps.
Mmh. Mmh.
Est-ce que tu peux nous retracer vite fait un petit peu justement les expériences professionnelles que tu as eues qui étaient chez tes anciens employeurs, ce que tu en as tiré et ce que tu as essayé de reproduire ou à l'inverse de ne pas reproduire dans tes salons actuels?
Donc j'ai fait mon apprentissage, mon BP, et à 19 ans, je suis rentré dans un gros groupe, une franchise haut de gamme. Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire.
On a le droit, hein. De toute façon, il n'y a pas de diffamation, il n'y a que du vécu, hein. Et c'est marqué sur ton CV, de toute façon, même si tu n'as plus de CV.
Ouais, mais on a voulu me le reprocher un peu, mais enfin bon, je vais me lancer, j'assume complètement. À 20 ans, je suis rentré chez Dosange, et à 26 ans, j'étais à mon compte. J'ai racheté un salon de Sange. Et dans toutes ces années où j'ai travaillé dans cette franchise-là, elle m'a beaucoup apporté en formation de coupe, et j'ai rencontré de très très belles personnes pour une belle vision de la coiffure. Voilà. Et eux m'ont vraiment, avec le groupe L'Oréal, où ils m'ont fait faire des stages énormes, mais vraiment de gestion, de compta, de gestion humaine, de management.
Ouais.
Et j'en sers toujours.
Non, mais c'est intéressant cet aspect-là parce qu'on peut le transposer dans beaucoup de secteurs d'activité, dont l'expertise comptable, dont l'optique, et beaucoup de secteurs sur lesquels on est amené à intervenir, nous, en tant qu'experts comptables. Et tu vois, autant foncièrement, et là, c'est pareil, j'ai pas peur de mes mots et j'affirme, je suis plutôt artisanat, indépendant, petite boîte, mais il faut reconnaître que les grosses boîtes, les grands groupes ont des process, des méthodes et des choses qui sont super intéressantes d'aller reprendre, apprendre, reprendre, transposer. Il n'y a pas que du bon et que du mauvais, comme toujours, mais c'est vrai qu'en début de carrière, aller voir ce qui se passe dans des grands groupes, c'est quand même loin d'être inintéressant, quoi. Et moi, ce que je disais, c'est que à la fin de mes études, je suis allé faire 6 mois chez Grant Thornton à Paris, un gros cabinet d'audit parisien. J'ai travaillé sur des méga dossiers, des trucs où je comprenais pas forcément tout ce que je faisais, mais j'ai vu des process, des modes d'organisation, et bon, il y avait des trucs qui déconnaient clairement, mais par contre j'ai appris quand même énormément de choses. Et c'est vrai que quand j'ai été derrière chez mon premier employeur en province dans un petit cabinet d'expertise comptable, eh ben il m'a dit, tu sais pas tout faire, déclaration de TVA, je vais t'apprendre, t'inquiète pas. Mais par contre, il y avait des choses en informatique, en gestion d'entreprise que j'avais pu voir, entre guillemets, à la capitale. Tu vois qu'il était très intéressant de transposer par chez nous, quoi. Je dis pas que les provinciaux sont des plus coucou, quoi. Loin de là. Mais il y a du bon à aller prendre dans les gros groupes et à la capitale, quoi. Et c'est peut-être ce que t'as appris un petit peu aussi chez Dauphin.
C'est vrai que les Parisiens, ils ont l'impression d'être au-dessus de nous, et aujourd'hui, non. On coiffe beaucoup de Parisiens.
C'est ce que j'allais dire. En plus, toi, tu dois en voir passer dans le salon.
J'en ai pas. Mais après, non. Moi, je sais ce que. Enfin, je suis jamais rentré dans ce process parce que je savais où je voulais aller. Pour moi, je savais le chemin que je voulais avoir. Donc, je montais sur Paris. J'adore Paris. Je montais sur Paris pour apprendre plein de choses, et je redescendais et je les transmettais à mon image, à la façon de David. Et puis par rapport à la clientèle de La Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne, et j'aime m'adapter par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Donc et je suis protocole, mais à un moment donné, il faut me laisser une liberté.
Mais alors justement, qu'est-ce que t'as appris chez Dosange?
La gestion? J'ai appris à couper les cheveux, parce que c'est donner des volumes, à comprendre. À travailler les débrochings, à travailler la couleur. On a eu des psychosociologues, on a eu des morphopsychologues, on a eu des maquilleurs, on a eu des techniciens de coupe, on a eu des intervenants comme Jean-Marc Sylvestre, pour ne pas le nommer. J'ai eu des intervenants du groupe Dosange qui travaillent pour le groupe Dosange, qui sont indépendants et qui nous font voir comment gérer son entreprise.
Ouais. Alors moi, ce qui
grâce au groupe de Sens, on pouvait avoir ce genre de formation.
Voilà. Ouais. Mais alors, ce qui m'interpelle justement, c'est quel est l'intérêt du groupe de Sens là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont la volonté. Alors d'ailleurs, tu vas répondre où tu sais ou tu sais pas, mais demain, tu aurais voulu ouvrir un salon de Sens. C'est quoi? C'est des franchisés. C'est des franchisés.
Tu vas à Paris, tu demandes, voilà, je voudrais acheter tel salon. Ils te disent oui ou non.
Ouais, enfin, tu choisis entre guillemets ton fonds de commerce, tu trouves un droit au bail et tu dis, est-ce que vous êtes OK pour qu'on monte une franchise
et
là-bas?
S'ils sont pas d'accord, ben tu l'as pas.
Ouais, OK.
Et donc, ils peuvent refuser aussi, moi, le jour où j'ai vendu mon salon de Sens, ils ont demandé à voir la personne pour voir s'il allait être à la hauteur de leur demande.
D'accord.
Mais j'étais franchisé indépendant.
Ah oui, voilà, t'étais, ouais, d'accord. Okay.
Oui, je suis franchisé indépendant. J'avais ma société, j'avais mon fonctionnement.
Oui, donc en fait, au début, quand t'as été salarié chez De Sens à une période,
un salon.
Voilà. Et non, mais et puis surtout que t'as bénéficié des formations qui avaient justement vocation à te permettre de t'installer en tant que franchisé.
Pas forcément, il y en a qui sont encore salariés.
Oui.
Mais après, moi, j'avais envie.
Mais j'ai dit permettre. J'ai
oui.
pas dit forcément.
Non, parce que c'est une fois que
que t'as émis la volonté.
J'ai émis qu'en fin de compte j'étais travailleur non salarié avec Nadia, on était tous les deux associés, qu'au bout de 3 mois j'ai fait mon stage de management et de gestion.
D'accord.
Parce que en fin de compte il faut comprendre comment ça fonctionne avant d'aller faire ce genre de stage, autrement c'est pas la peine, on perd son temps. C'est un petit peu le fonctionnement de ces gens-là, parce que c'est quand même des stages qui sont très chers et très condensés, et il faut vraiment avoir mangé un petit peu de vache enragée pour vraiment comprendre le fonctionnement. C'est comme ça, en fait. Pour eux, c'est ça.
Ok. Et justement, alors quand tu dis que tu étais franchisé chez eux, t'avais racheté un magasin qui
un
était,
salon, ouais, tout
c'était
à fait.
Déjà un
200.
Ok. Ok. Mm-hmm. Et quand tu l'as revendu, c'est resté dans le giron aussi, quoi. Et c'était où ça?
À La Roche-sur-Yon.
C'était à La Roche. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Ça marche. Et donc, tu me dis, ouais, donc aspect métier plus, ils ont poussé entre guillemets le, je vais pas dire le talent, mais le métier à son paroxysme, vraiment. Avec tout ce qui se fait de plus pointu dans ce milieu, ils ont accès à tout ce qui se fait de mieux, quoi, j'imagine.
Ils donnent les moyens d'être toujours à la hauteur. Comme on se compare souvent dans notre métier à la restauration, food ou la cantine, la brasserie ou une étoile. Voilà. Donc, en fin de compte, il faut surtout se dire où est-ce que j'en suis par rapport à moi, ce que je sais faire. Je me mets en une étoile, je me mets en food ou je me mets au milieu. Et après, tu as des tranches où tu te dis, voilà, j'y vais ou j'y vais pas.
Yes. Et ben, tu sais, ce positionnement, parce que c'est un positionnement stratégique là dont on est en train de parler, en fait, mais en fait, de plus en plus de secteurs d'activité sont contraints ou doivent le faire. Et nous également en expertise comptable, parce qu'on avait historiquement quand même une stratégie assez médiane, mais ce qu'on dit toujours, c'est que, ce que je dis souvent actuellement, c'est que le milieu de gamme est mort, quoi. Et c'est-à-dire que soit t'es le moins cher, soit t'es le meilleur. Alors, il reste bien heureusement et encore
vous
heureux.
Comme ça. Vous le voyez comme ça.
Ouais.
Vous.
Alors, pas forcément.
Non, mais par rapport à votre métier. Moi, j'ai pas la même vision que vous par rapport à ça.
Non, mais en fait, là, ce que je suis en train de traduire, c'est un petit peu ce qui se passe dans beaucoup de secteurs d'activité. Ouais. Et la restauration, encore heureux, bien évidemment, il y a des endroits où tu peux trouver un rapport qualité-prix super. Tu vois, on fait pas de pub, mais par exemple, le prénom, tu vas manger le midi, tu as ton entrée plat dessert à 21 €. Enfin, je veux dire, en termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable pour moi. Il y en a d'autres, hein, mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. À l'inverse, tu as des trucs ultra cheap où tu peux manger pour 9 balles. Ça va pas être fifou, mais en tout cas, c'est pas cher du tout. Et à l'inverse, t'as les étoilés. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que d'une part, tu peux pas avoir l'étoilé pour le prix du low cost, ça c'est clair et net. Mais en plus, il est de plus en plus difficile, compte tenu de l'augmentation des coûts, des coûts des matières premières, des coûts des salariés et tout ça, de proposer cette notion de rapport qualité-prix auquel je suis vachement attaché. Et au niveau du cabinet, justement, c'est ce que je dis, on n'est pas les plus chers, on n'est pas les moins chers, mais par contre, en termes de service, en termes de service d'expertise comptable, on a un très bon rapport qualité-prix. Et moi, c'est ce que j'essaye de défendre, en fait. Et sauf qu'il y a certains secteurs d'activité, il y a certains secteurs d'activité où ça devient, je vais pas dire impossible, mais très, très dur. Tu vois, genre la bagnole par exemple, la bagnole ça commence à devenir très cher sur beaucoup de trucs. Les voitures, ça explose les prix quoi. Bon, t'as Dacia qui arrive encore. Tu vois, en rapport qualité-prix, Dacia,
ouais,
c'est solide. Mais ce truc-là, c'est de plus
c'est
en plus.
C'est la moins
chère. Mais ouais, en plus, c'est ça qui est fort chez Dacia, c'est qu'ils sont non seulement les moins chers, mais en plus, entre guillemets, t'en as pour ton argent, quoi.
Mais nous, c'est pareil. On a les salons cheap, ils s'en sortent.
Ouais.
Parce qu'ils ont une façon de faire que je ne sais pas faire.
Et d'ailleurs, cheap, c'est une
franchise, hein.
Et
je la nomme, mais oui. C'est, voilà, ils ont un prix d'appel qui est extraordinaire.
Non, parce que même si on n'a pas je suis pas un expert de ton secteur d'activité et que on n'a pas trop d'anglo-saxons, un truc cheap, c'est le nom d'une franchise de coiffure qui fait des trucs pas trop chers.
Ouais, voilà.
Et donc,
il y a peu de concurrence, là, dans ce milieu-là. Après, il y a le moyenne gamme, comme ils appellent ça. Et là, il commence à y avoir beaucoup de concurrence. Le même principe que toi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils font de la qualité à un prix qui ne correspond pas par rapport à la qualité qu'ils font. Et après, il y a le haut de gamme, avec tous les copains qui m'expliquent ça, je ne suis pas trop d'accord qu'on puisse dire... Enfin bon, il y a du haut de gamme, et après, il faut se donner les moyens de le faire.
Ouais. Voilà. Mais ouais, on va y revenir parce qu'en plus c'est intéressant parce que moi c'est des sujets sur lesquels j'accompagne beaucoup de mes clients, notamment en termes de réflexion stratégique, de positionnement. Et le truc c'est que sur ce positionnement haut de gamme, en fait, une fois que tu as dépassé, alors bien évidemment il faut avoir un service ultra premium, une expérience client qui soit hors norme, etc., etc. Mais une fois que tu remplis entre guillemets tous les critères du haut de gamme, derrière en termes de prix, ça peut être 20 balles, 30 balles, 50, 60, 100. En fait, des fois, c'est un peu nos limites, quoi. Et la difficulté, c'est que pour des gens pragmatiques comme nous et nous, les experts comptables aussi, à un moment, t'as quand même tendance aussi à ramener des fois au taux horaire, quand même, quoi. Et à un moment, tu te dis, non, mais attends, là, si je rapporte au taux horaire, c'est n'importe quoi. Et genre, par exemple, pour en revenir à la bagnole, tu vois, allez, tant pis pour eux, on les nomme, tu vas chez Audi ou une marque du groupe machin. Bah, le gars, il va passer un diag pendant une demi-heure et tu vas prendre une cartouche de 130 euros. En termes de taux horaire, on doit pas être loin de 200 ou 250 euros. Et tu vois, sous prétexte qu'en fait, on est une marque premium, quoi. Sauf qu'à un moment, quand tu vois les salaires, quand tu vois le coût de la vie et tout ça, bah, tu te dis, le rapport qualité-prix et le positionnement prix-temps honnête, il devrait avoir de l'avenir, quoi. Sauf que avec l'émergence du haut de gamme dans plein de trucs, que ce soit dans l'hôtellerie, dans plein d'autres secteurs, bah c'est vrai que ce marché haut de gamme où t'as des gens qui peuvent payer entre guillemets n'importe quel prix, y en a certains qui se sont engouffrés dans ce positionnement et qui arrivent très bien, quoi. Après, il y a des gens, qui sont prêts à payer, donc très bien. Mais tu vois, tu viens de nous dire juste avant que toi t'étais plutôt dans le rapport qualité-prix. Comment justement t'essayes de le faire ça au quotidien dans ton...
Tous les jours.
J'imagine.
Tous les jours, je me pose la question. Tous les jours, je leur pose la question. On travaille sur le cheminement de la cliente, du A à Z.
Le parcours client.
Ouais.
Ouais.
Enfin, le cheminement ou le parcours, ouais, c'est oui, vrai oui. Que c'est... On travaille ce que la femme attend de nous, en fait, surtout. Et ça, c'est important. La première chose, c'est qu'est-ce que la femme attend de nous. Moi, je le sais. Hein. On le travaille avec mes collaborateurs, tous. Et puis, par rapport à la ville, parce que c'est important. Et puis, la formation. On fait beaucoup de formation. D'information. On va chercher les nouvelles tendances. C'est nous qui l'amenons. On utilise de très bons produits, surtout. De très, très bons produits, parce que... Il y a des différences de prix x2 hein, sur un tube de couleur, par exemple, c'est x2. Donc, on sait pourquoi on prend x2 pour avoir un résultat top. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'écoute et l'ambiance du salon aussi.
Ouais, bah encore une fois, on en revient à la notion de parcours ou d'expérience client. C'est-à-dire que oui, certes, tu viens te faire couper les cheveux ou te faire faire une couleur ou etc. Mais tu viens aussi et surtout passer un moment au salon. C'est ça que tu veux dire?
Bah, passe entre une demi-heure et voire deux heures dans un salon pour une prestation globale. Après, si, bah, si, si, dans un salon de coiffure X, bah, tout le monde se tire dans les pattes ou se râle tout le temps pour ses horaires, ses vacances, ou raconte des histoires de la voisine qui a fait ça et machin. Non. C'est un levier, hein, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a, voilà, il y a des endroits où on a envie de sortir quand on est rentré, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais aussi bien dans la restauration que dans la coiffure que dans un magasin de vêtements. C'est, voilà, c'est propre à la personne et aux petits ciseaux, pour pas les nommer, parce que je les connais bien, les salons des petits ciseaux. Tout le monde ne peut pas travailler avec l'équipe des petits ciseaux.
Tu t'estimes que vous avez une équipe et un mode de fonctionnement qui est,
qui à part entière. Il faut avoir un esprit d'équipe. Ouais. Et tout le monde ne l'a pas.
Ouais. Et quand tu dis avoir l'esprit d'équipe dans ton secteur d'activité, ça se matérialise parce que, enfin, nous, si tu veux, au cabinet, avoir l'esprit d'équipe, c'est quoi ? C'est si jamais ton collègue il est en galère à la fin de mois parce que pour X ou Y raison, soit il a eu un surcharge de travail, soit un problème perso quoi, et ben tu vas aller l'aider pour terminer ses TVA qu'il a pas pu faire.
Tout le monde n'est pas capable de le faire.
Ouais. Il y en a qui vont jouer trop perso quoi.
Il y en a qui veulent pas échanger. C'est par exemple sa collègue est un petit peu dans la panade parce qu'elle sait qu'elle t'a pris du retard ou elle est malade. Bah tiens, je vais t'aider. Et puis après on échange quand on a une histoire à raconter, on la laisse pas dans son coin puis ricaner dans son coin. On laisse jamais quelqu'un c'est vrai qu'on travaille en ce moment notre identité et parce que c'est on a une identité mais on va la valoriser.
L'identité, les petits ciseaux, tu veux dire ?
Ouais. Ouais.
Oh, la marque, n'ayons pas peur des mots.
Pas la marque, non. C'est le nom, les petits ciseaux. Je suis pas rentré dans la marque. C'est pas une marque. Le nom des petits ciseaux, c'est un lieu.
Ouais.
C'est un endroit, c'est un lieu, et on vient pour avoir une belle coupe, pour avoir un moment agréable où on a une intention. Et ce qui est ressorti déjà le dernier briefing qu'on a fait cette semaine, c'est on aime les gens et on a une belle intention.
Quand tu dis... Ouais, non, mais j'entends bien. Et c'est marrant sans l'être. C'est que moi, j'ai rebondi il n'y a pas longtemps sur un article ou quoi. Je disais, pour être un bon expert comptable, il faut aimer les gens. Et j'ai un copain qui m'a chambré. Il m'a dit, non, tu t'es trompé, il faut aimer l'argent. Je lui ai dit, c'est un enfoiré. Non, mais c'est vrai. Et à partir du moment, quel que soit le métier d'ailleurs, je veux dire, à partir du moment où tu es sur un métier de service, il faut s'intéresser aux clients, aux patients et quoi. Donc, il faut aimer les gens indirectement.
C'est-à-dire que oui, c'est oui, mais tout le monde, enfin je dis, notre vision n'est pas forcément la vision de ton voisin et ta propre vision, et quand tu l'as et puis t'as une nouvelle personne qui rentre dans le salon et qui l'a pas, eh ben je pense que tu fais la même chose que moi, tu la prends pas.
Ouais.
Parce qu'on peut pas travailler avec une personne qui a pas un esprit d'équipe, c'est pas possible. C'est impossible. Pas au petit ciseau. On a 40 mètres carrés.
Ouais. En plus, il y a la promiscuité physique qui fait que c'est vrai que.
Mais elles aiment ça. Hein.
Ouais.
C'est les filles, elles aiment ça.
Ouais, mais après, ça devient binaire, quoi. C'est-à-dire que soit ça match et dans ce cas-là, ça le fait, soit ça déconne et dans ce cas-là, ça explose tout de suite, quoi, vu le compte.
Bah, ça va faire 10 ans.
Ouais.
Et mon prédécesseur a beaucoup travaillé dedans aussi.
Ouais. Et là, aujourd'hui, tu es à la tête de trois salons.
Nous sommes à la tête de trois salons.
Avec
Nadia. Je ne suis pas tout seul,
ouais.
Avec Nadia.
Ouais. Alors, comment vous faites justement pour manager tout ça et vous organiser ? Parce que je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus. La présence physique du patron... Je ne sais pas si tu aimes ce terme-là. Moi, je suis neutre vis-à-vis de ce terme-là. Mais la présence physique du patron... donne le tempo quand même et l'ambiance. Toi et Nadia, vous êtes deux, et déjà, je vois trois salons. Alors, comment vous faites pour imprimer ça partout ?
Bon, déjà, je suis à 80% au petit ciseau. Enfin, non, je suis en taux horaire, je suis à 100% au petit ciseau. Mais j'ai une journée où je ne travaille pas. Et je vais dans les deux autres salons. Et donc là, je passe une matinée toutes les semaines, ou une après-midi toutes les semaines, dans les deux salons. Et donc, voilà, on discute, elles aiment nous échanger, partager, valoriser. Comme je suis de l'extérieur, j'ai une autre vision d'elles. Mais par contre, on n'a pas de manager, on a des chefs d'équipe. Et chacun dans les salons. Chacune des filles, il y a 3 ou 4 filles dans les salons qui ont chacun leur tâche. Mmh. Donc, ça permet de créer une cohésion, comme un capitaine sur un terrain de rugby, parce que voilà, j'ai cette passion-là. Et il y a un capitaine, mais c'est pas le chef.
Mais alors,
le chef, c'est le manager qui est en haut.
Ouais. Mais alors, justement, c'est chef d'équipe ou c'est capitaine ?
C'est le capitaine. C'est pas un manager. Parce que le rôle du manager, pour des filles, c'est impossible à gérer.
Bah justement, c'était tout ma question. Non. J'allais te dire, les filles, elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles ont leur rendez-vous, elles ont leur agenda.
Mais comme tu dis, le patron n'est pas là, mais il y a des manageuses qui ne sont pas patronnes et qui ont cette fibre-là, et un jour ou l'autre, elles achètent.
Oui.
D'accord ? Mmh. Nous, aujourd'hui, les filles, il y en a peut-être 1 sur 19 qui a envie. Mmh. On sait à peu près le curseur, parce qu'on a des entretiens individuels tous les ans, et c'est Nadia qui gère ça au quotidien, et on est présent. Et donc, on sait la valeur, on aime avoir la valeur de chacune et les qualités de chacune, et donc on met en place la valorisation de chacune. Voilà. Il y en a qui veulent pas plus, puis d'autres qui ont envie. Donc, on leur laisse la formation des jeunes, la gestion des commandes, la gestion des stocks, la gestion de la clientèle, la gestion de l'ordinateur. Donc, il y a la gestion des courses. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est dans notre entreprise, on a des tâches, changer les ampoules. Enfin, je peux en énumérer, quoi.
Ouais, et ça, tu fais ça en fonction des appétences et des volontés de chacune et de ce qui leur sort aux entretiens annuels, quoi.
Des entretiens individuels.
Parce que c'est vrai que la grosse difficulté en France, historiquement, en France et peut-être ailleurs aussi, c'est que un bon élément, pour le récompenser, souvent on lui dit bah tiens, je vais te donner des tâches de management et d'encadrement, quoi. Tu vois ? Parce qu'il est bon. Et sauf que c'est pas forcément un cadeau que tu lui fais, voire même des fois c'est carrément néfaste. Et justement, je transposais ça à toi, une nana qui fait bien ses coupes, qui est bien avec la clientèle, machin. Tu pourrais en fait naturellement dire bah tiens, les clients sont vachement contents de toi, tu bosses bien, t'es bien impliqué dans le salon, on va te donner des responsabilités et tu vas encadrer les 2-3 autres nanas qui sont dans l'autre salon du groupe. Est-ce que ça te dit, quoi ? Et en fait, soit la nana, elle a envie, elle aime ça et puis elle y va et puis dans ce cas-là, tout le monde est content. Mais t'as aussi de nombreuses situations où on se rend compte en fait que la nana était juste bien dans son taf, à son poste, à faire ce qu'elle aimait faire et ce qu'elle faisait bien. Et par contre, lui donner un taf d'encadrement et autres, c'est un faux cadeau. Tu vois ?
En faisant les entretiens individuels, on arrive à... On anticipe avant de faire ça. Parce que autrement,
ça se co-construit, tu veux dire ?
Ouais, ça s'anticipe maintenant. Enfin, avec l'expérience qu'on a avec Nadia depuis 96, on a quand même bourlingué et on écoute des copains qui ont des entreprises aussi, plusieurs entreprises. Et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, faire comme on le fait, c'est bien. Enfin, pour l'instant, ça fonctionne.
Ouais.
Je sais pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Mais nous, ça fonctionne.
Et quand tu dis faire comme on fait, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a une capitaine, il y a une chef,
ouais.
Il y a une capitaine d'équipe, enfin, elle est capitaine. Donc, elle gère certaines tâches, l'ambiance, il y a un problème, c'est elle. Mais autrement, elle n'a pas tout à gérer. Les commandes, la formation des jeunes, elle n'a pas tout ça, quoi. Tout ce package-là. Mm. On a dispatché toutes les tâches sur l'équipe. Comme ça, pour nous, c'est plus facile à gérer.
Ouais, je vois. Et alors justement... Est-ce qu'on peut, parler un petit peu chiffres, salaires, etc. Quel est déjà un apprenti, en alternance, en apprentissage, c'est le pourcentage du SMIC en fonction de l'âge,
c'est ça.
Machin.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais ce qui m'intéresse plus que le montant en tant que tel, c'est le mode de rémunération. C'est-à-dire qu'une coiffeuse salariée, donc, il doit certainement y avoir des coefficients, une convention collective, un truc du genre. Mais est-ce que derrière, les filles, elles sont incentivées ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça dépend du nombre de coupes ? Est-ce qu'il y a des bonus ? Comment ça se passe dans la profession et comment ça se passe chez toi ?
Donc le syndicat des coiffeurs qui a fait une grille d'échelons.
Ouais.
C'est des échelons.
Ouais.
Avec ces échelons-là, niveau, et après, dans les échelons de 1 à je sais plus combien. Et après, il y a les niveaux. Échelons, et dans les échelons, il y a des niveaux. D'accord?
Un truc simple encore, quoi.
Ça va, parce que c'est bien détaillé derrière. Non, ça reste simple. Et après, elles ont, il y a le barème du syndicat des coiffeurs qui a géré, en fin de compte, un pourcentage sur un chiffre d'affaires. Comme un commercial.
Et ça, c'est du légal. C'est le droit, c'est la convention collective.
Tout à fait. Oui, c'est la convention collective. Après, on l'a affiné parce que ça ne nous convenait pas. Mmh. Mais on fait ça depuis 96. Hein. Donc oui, il y a une base qui est peut-être haute ou pas haute, ça dépend du niveau. On va pas donner le même salaire à une jeune fille qui a juste le brevet et une femme qui a 10 ans de plus. Mais et encore dans certains salons, c'est bref. Mais non, au contraire. Et après, elles ont un pourcentage sur leur chiffre d'affaires.
Et derrière, je mets ça aussi en perspective avec la durée de travail. Souvent, les filles, elles travaillent combien de jours? C'est des contrats à 35 heures? C'est quoi la... Enfin,
je sais aujourd'hui, pas si... aujourd'hui ils veulent de la dispo.
Ouais.
Ils veulent du loisir.
D'où ma question.
La question, elle est simple, c'est qu'elles travaillent sur 4 jours.
Ouais.
Voilà.
Oui, après, vous êtes un métier qui s'y prête bien.
Pas plus.
T'as quand même des horaires d'ouverture, une amplitude qui peut être relativement large. Et donc, qui permet d'aller coller la durée légale du travail hebdomadaire assez facilement sur 4 jours.
Oui, mais y a quand même...
Ça, c'est comme en pharmacie, par exemple. En pharmacie, si jamais tu es censé travailler 35 heures, si la pharmacie est ouverte 6 jours sur 7, et ce qui est quand même le cas de beaucoup de pharmacies, si tu as une amplitude horaire qui est assez large, je ne parle même pas d'une ouverture entre midi et 2, c'est très facile d'aller caler tes 35 heures sur 4 jours, voire même 3 jours et demi, c'est un peu énervé.
En termes de comptabilité, en termes de gestion, de planning sur tableau Excel, c'est bien. Mais aujourd'hui, la femme ou l'homme veut se faire couper les cheveux, maintenant, now, quoi.
Oui.
Ouais, ils prennent rendez-vous sur 48 heures, 72 heures, c'est compliqué.
Ah non, mais là, on est sur deux contraintes. Mais
non, c'est pas une contrainte.
Ah bah si.
Moi, c'est du quotidien.
Oui,
gère ça au quotidien. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte à la clientèle et qu'on s'adapte au planning des collaborateurs.
On est
au milieu.
On est bien d'accord.
Donc les tableaux Excel, oui, les plannings, oui, les machins. Car qu'il faut c'est hyper confortable de travailler sur 4 jours. Donc ils font 35 heures en 4 jours.
Ouais.
Voilà.
Mais toutes les difficultés. Non mais attends.
C'est pas simple.
On est soumis là-dessus exactement aux mêmes contraintes. C'est-à-dire que tu as d'un côté le client final et d'un autre côté, tu as tes salariés. Et en fait, les volontés du client final et les aspirations du salarié sont pas forcément alignées. Comme tu viens de le dire à très juste titre, les clients, ils veulent se faire couper ce soir ou demain. Et sauf que ta salariée, elle avait peut-être prévu de pas
être là. Elle l'a prévu.
Ouais.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes des artisans et on ne peut pas faire de télétravail.
Oui.
Donc, on doit être présent. Donc, c'est de la présence. Et on a au sable, on a un flux qui est complexe, quoi. Vraiment très complexe, quoi. Parce qu'entre midi et deux, on a du monde, le matin, le soir, enfin... Mais bon, voilà, après, il faut savoir s'arrêter.
Et globalement, au fur et à mesure des années, tu arrives à maîtriser à peu près ton planning. Quand je dis maîtriser ton planning, c'est tu sais globalement avec les vacances scolaires, les ponts, les machins, tu sais les jours où tu vas te faire dégommer et les jours où ça va être compliqué.
À peu près.
Ouais.
Au Sable d'Olonne, c'est... Le danger, c'est qu'on est une station balnéaire et on est une ville. Et c'est très confortable aujourd'hui. En termes de rentabilité, en termes de... Parce qu'on a du flux, hein, quand même. Ouais. Il y a 45 000 habitants. Donc, c'est confortable. Mais bon, pendant les vacances d'été, pendant les vacances de Pâques, quand on a les vacances, il y a du monde. Mais il faut donner des vacances. Donc voilà, on gère maintenant par rapport... On change notre façon de voir.
Et alors justement, si on rentre un peu dans le pratico-pratique au niveau des prises de rendez-vous et tout ça, t'as j'imagine un logiciel qui gère tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et justement, en termes de délai, moi je veux me faire couper les cheveux chez toi demain, j'ai combien de délais?
Ça dépend avec qui.
Oui, parce que les gens ont leurs habitudes. Alors là, là-dessus, tu parlais beaucoup depuis tout à l'heure de femmes quand même. T'as des salons qui sont plutôt axés féminins, plutôt.
Y en a qui sont qualifiés pour faire que de la femme, puis d'autres qui sont plus à l'aise sur les hommes, qui sont plus à l'aise en balayage, beaucoup plus à l'aise. Mais en général, le matin pour l'après-midi ou le matin pour le matin, ça dépend avec qui, mais il y a de la place, ouais. On est organisé pour.
Ouais, d'accord.
Voilà, mais voilà. Oui. Il y a de la place.
Ouais. Et. Oui, parce que ce que je disais, mais moi, là, justement, d'un point de vue perso, ça, c'est ce qui m'importe, moi. C'est que ça soit rapide, simple et efficace. Je m'en fiche qu'il me coupe. Je m'en fiche. J'ai la chance, en plus, d'être à mon compte, de pouvoir me libérer un peu n'importe quand. Et justement.
Moins de 24 heures.
Ouais.
Ouais.
Et ça, tu sens que c'est vraiment une demande prégnante, plus forte qu'avant ou non?
Je me suis toujours posé la question. On est prêt. On veut, par exemple, acheter une voiture ou une télé tout de suite, mais on est prêt à l'acheter sur Internet et d'attendre 8 jours.
Ouais. Ouais.
Alors là, quand on essaye de se comprendre, alors c'est vrai qu'il y en a qui veulent tout de suite maintenant, même si on lui dit dans 2 heures, ben il a pas le temps, même si c'est dans 24 heures, il a pas le temps. Donc on fait pour notre mieux et ça passe ou ça passe pas, mais en général, on est quand même des artisans, donc il y a cette confiance, on installe cette confiance, ce bien-être. Et les gens sont capables d'attendre. C'est un travail de fond. On a fait un travail de fond quand même. Donc on a du passage l'été. Hein, c'est un gros mois, au mois d'août par exemple, au mois de juillet, à partir de Pâques, il y a du monde. Mais on a réussi à fidéliser, qui n'est pas acquis, mais on a réussi à fidéliser une clientèle. Rien n'est acquis. Ça par contre.
Ouais. Et justement, t'estimerais à combien à peu près le pourcentage de ta clientèle qui est du récurrent?
Je sais pas.
Tu sais pas?
Je sais pas.
Mais une majorité quand même.
Oui, bien sûr, oui.
Alors que
l'homme est plus fidèle que la femme dans la coiffure. Dans la coiffure, je dis bien.
Ah oui.
Oh, ça, ouais.
Alors là, tu vois, j'aurais pas si. Du tout dit ça. Quoi.
Ah si, au contraire.
Ouais.
Enfin moi, je pense qu'on, enfin, on pourra en parler, mais il s'est monté beaucoup de salons hommes et je suis allé voir ce qui se passait dans les salons hommes.
Ouais.
Mais c'est une autre ambiance et c'est ce que les gens aiment aujourd'hui.
Ah oui.
Ouais. Mais dans les vrais salons hommes.
Ouais.
Je suis allé à Paris, j'en ai essayé beaucoup. J'ai été formé dans des salons hommes, en hommes et en barbe. Et c'est ce que les femmes recherchent aujourd'hui. Elles y sont rentrées, elles sont jalouses parce qu'on ne peut pas se faire.
Ouais.
Voilà, on est au petit ciseau, on a essayé de. J'ai, avec Nadia, essayé d'instaurer ça. Et j'ai l'équipe qui a voulu suivre cette histoire-là.
Cette tendance qu'on retrouve dans les salons hommes.
C'est-à-dire qu'en fin de compte. On n'a pas fait de déco comme à la maison. On a fait une déco à notre image et les gens je pense qu'ils s'y sentent bien et mon équipe aussi.
Tu me disais, je rebondis sur ce que tu disais en introduction sur l'achat de ton premier premier salon. Alors ça m'interpelle quand même, hein, sans un sou quoi.
J'ai eu un parrain.
C'est marrant parce qu'en l'espace d'une semaine, c'est la deuxième histoire que j'entends de ce genre-là. Où la première histoire, c'était un gars qui était très très jeune et qui avait racheté un truc relativement cher à plusieurs millions. Et en fait, il a tapé dans la main, il a fait un crédit vendeur avec son vendeur, quoi. Un truc qui, en année 2024, paraît quand même un peu what the fuck et qu'on voit de moins en moins. Toi, raconte-nous un petit peu justement ton parrain et ta première install, comment.
Ben, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai travaillé avec un patron et il savait ce qu'il m'a dit, tiens, faut que tu t'installes. Mais j'ai dit, mais j'ai pas de sous. Il me dit, c'est pas grave, on va en trouver et puis je serai ton parrain.
Et en plus, quand tu dis, faut que tu t'installes, quel était son...
Ben, parce que je tournais en rond.
Enfin, il sentait que c'était...
Voilà, il fallait que ça avance, fallait... Voilà, et puis je le remercie. Cette personne, je la remercie parce que c'est vrai que peut-être qu'il n'aurait pas été là, j'aurais eu un autre chemin, mais après, voilà, il m'a fait confiance, il m'a aidé et j'ai emprunté le capital. On a tout emprunté.
Ouais, emprunt à 100%.
Ouais. Et il avait confiance en nous parce qu'on s'est installés tous les deux.
Et en fait, c'est lui qui s'est mis caution.
Ouais.
Ok. Ouais, c'est une belle preuve, alors je vais pas dire d'amour, mais...
c'est une belle preuve de confiance,
ouais,
hein.
Ouais, ouais.
C'est une belle preuve de confiance, hein. C'est vrai que c'est quand même... Mais il y a des supermarchés, c'est ce qu'ils font, hein, aujourd'hui. Hein.
Oui.
Mais après, on va pas rentrer dans le détail.
Ouais.
Mais il y a quand même des parrains.
Oui, tout à fait, ouais.
C'est beau, enfin, je veux dire, oui. Je trouve que, voilà, ils ont le droit de regard sur les... Voilà, peut-être que je serais obligé de, enfin, je le ferais si je trouve que la personne en voulait la peine. Je serais capable de le faire aujourd'hui parce que on m'a aidé. Je me dis, si je peux aider quelqu'un qui en vaut la peine, que je ressens, je me donnerais les moyens de le faire.
Ben ça, justement, sur, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, des petits groupements à taille humaine, tu vois, que ce soit dans le secteur de l'optique, de la coiffure, de la pharmacie ou quoi. Et on voit en fait cette tendance quand même à créer des petits groupements indépendants avec des patrons, installés, qui ont un ou deux magasins ou un, et qui vont justement aller installer leurs jeunes, leurs poulains, n'ayons pas peur des mots, et ils vont aller prendre 10, 20, 30% du capital du truc. Et puis le poulain va prendre le reste. Pareil, caution, on l'aide à la fois financièrement, mais également humainement et parfois matériellement. Et là, en fait, on est sur un truc où tout le monde y trouve son compte. Parce qu'indirectement, bah, le poulain, ça lui permet de se lancer, même si il a pas forcément les reins et l'assise financière pour. Et à côté de ça, le parrain, bah, lui, il faut pas se mentir, il va quand même prendre 20 ou 30... Alors, il y a deux choses. Humainement, déjà, il installe un jeune et il aide un jeune, et ça, je trouve que c'est le principal, parce que c'est quand même vachement gratifiant et humainement intéressant. Puis, accessoirement, tu prends quand même 20-30% de capitalisation sur ta quote-part de capital, alors que c'est pas toi qui exploite le magasin. Et donc, tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est quelque chose d'assez vertueux que j'essaye de transposer et j'aide certains clients à faire ça.
Enfin... Je pense que si on doit faire ça, parce qu'on est dans une situation aujourd'hui peut-être, faut qu'ils aillent faire cette démarche. Combien je peux l'acheter? Combien, qu'est-ce que je peux avoir à la banque et tout? Faut qu'ils fassent cette démarche-là avant que ce soit pas.
Oui.
Mais faut se poser les bonnes questions. Parce que je lui dis pas, je fais tout et tout, parce qu'il peut y avoir un moment de frustration. Là, non. Là, il faut, voilà. Va voir un comptable, va voir un banquier, va voir un machin, et après, tu sais de quoi tu vas parler.
Non, mais t'as raison.
Moi, je sais, parce que c'est facile de dire, tiens, je te file 60% de mes parts du salon des petits ciseaux, mais c'est moi qui te prête l'argent. Non.
Non, mais t'as raison de le rappeler, et l'ordre des choses, en fait, n'est en effet pas celui-là. C'est le jeune, il a la niaque, il a la volonté de s'installer.
Ouais.
Il va aller tâtonner à droite, à gauche, voir, et il va peut-être se rendre compte, oh, putain, tout seul, machin, c'est peut-être un peu hard.
Et puis,
ça serait peut-être pas déconnant d'en parler avec mon patron.
Il va savoir lire un bilan.
Ouais.
Parce que...
Et justement, toi, qu'est-ce qui a été le plus dur quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, justement, c'est... En tant que chef d'entreprise, c'était quoi les choses les plus difficiles que tu as eues à surmonter?
Je dirais en un comme ça, au bout de. Parce que ça fait quand même depuis 1996 que je suis à mon compte. Je pense que c'est. Au départ, les mauvaises personnes que j'avais autour de moi.
Quand tu dis mauvaises personnes. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Dans l'équipe, quoi.
Ouais. Les gens de l'équipe. Alors, je sais pas.
Mais pour autant, c'était des gens que tu avais récupérés ou des gens que tu as embauchés?
Quand on embauche, quand on achète une.
Oui, donc tu as les personnes que tu as récupérées en place, quoi.
Voilà. Okay. Donc, ça, et puis. La jalousie, c'est un facteur qui me déplaît aujourd'hui.
Ouais. Mais sinon, sur l'aspect purement. Technique de gestion comptable, fiscale, qu'est-ce qui a été le plus
j'ai pris
le
non,
plus chiant,
que,
le plus
non,
dur.
Non, pas plus dur, parce que on avait notre point mort, on avait la foi, on avait l'envie, on avait la connaissance de notre métier. Faut pas oublier, enfin, je trouve que j'ai besoin d'un comptable, on a besoin de gens pour la finalité d'un bilan, pour la création d'un bilan, pour le social, pour tout ça.
Le bulletin de paye,
mais ouais, mais je veux dire aujourd'hui nous notre cheval de bataille c'est et il y a des économistes qui ont su nous le rappeler, c'est quoi? C'est notre peigne et notre ciseau et notre savoir-faire. Et on s'est ciblé sur ça. On s'est pas ciblé sur est-ce que je suis bon dans les chiffres, je veux faire des... Non, on s'est vraiment focalisé sur ce qu'on savait faire et ce que le groupe allait nous apporter. Et on a travaillé à 200% là-dedans. Et c'est ce qu'on a fait aux petits ciseaux, parce que reprendre les petits ciseaux au Sable d'Olonne, Olivier, tu connais l'identité des petits ciseaux. Ça, c'est un challenge. Mon banquier m'a dit, celle-là, vous me l'avez pas faite encore. Ouais.
Mais justement, le banquier, tu disais, le banquier, il t'a suivi pourquoi, à ton avis?
Parce que il avait confiance entre David et Nadia.
Ouais.
Parce qu'il savait ce qu'on était capable de faire, ce que on était capable de mettre en place, et puis la qualité de travail, la vision des au niveau humain, au niveau des gens, de nos collaborateurs. On a des gens qui croient en nous et qui croient encore en nous.
Ouais. Hein. Et alors attends, c'est bien gentil tout ce que tu nous dis, mais on est quand même sur le podcast des chiffres un peu, quoi. Et je vais pas te demander combien t'as acheté. Ça serait bien trop personnel.
Un pourcentage du chiffre d'affaires.
Mais alors justement, c'est ce que j'allais te dire.
Un pourcentage du chiffre d'affaires.
Ça se vend combien de pourcents du chiffre d'affaires à peu près
en ce moment, en ce moment, avec les taux sont bas, c'est entre 60 et 65.
Ah oui, alors les taux, tu veux dire les
enfin,
taux...
Enfin, le taux de pourcentage.
Ouais.
Voilà, sur des bonnes affaires. Il y en a qui se vendent 45%, il y en a qui se vendent pas.
Ouais.
Pas du tout. Même.
Et donc, ouais, donc, un bon emplacement, un salon qui tourne bien, 60-70%.
70%, c'est.
Ouais, ouais. Et bah, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal parce que vous avez quand même un ratio de main-d'œuvre qui est assez fort.
Ouais, c'est le comptable qui parle, là.
Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les chiffres, qui écoutent. Et en plus, moi, je suis pas un acharné des chiffres, mais c'est vrai que les gens aiment bien savoir combien ça coûte, combien ça rapporte, machin et tout ça. Et c'est vrai que, je me répète, 60-70% du CA, bah, c'est un prix de vente.
Hors taxe, hein.
Oui, bien sûr.
Non, parce qu'il y en a qui vendent.
Il y en a qui achètent TTC, t'as raison. Mais compte tenu du poids de la masse. Tu sais, alors c'est pas une question piège, hein, mais le poids, justement, de la masse salariale sur un salon de coiffure.
Il y a un pourcentage à pas dépasser. On avait
on doit être entre la prestation de service de genre expertise comptable la restauration.
Exactement, je voudrais pas dire bêtises parce que surtout en podcast,
donc
c'est pas facile.
On doit être à 40%, un truc du genre. On regardera, mais.
On a une masse salariale, c'est la manœuvre.
Bah, bien sûr.
Mais on me dit, toi, t'as pas de stock. Oui, j'ai pas de stock.
Non, mais.
J'ai un stock de manœuvre.
Ouais. Et puis attends, t'as pas de stock. Alors ça, c'est justement, ça me fait rire.
Non, mais par rapport à des magasins de vêtements.
Oui, mais en fait, le stock, ça, c'est une contrainte en termes de financement. Mais ce qui est important, c'est pas combien t'as de stock, c'est combien tu le vends et combien tu marges. Moi, ça me dérange pas d'avoir 2 millions de stocks si je leur vends 4. Par contre,
ouais, mais le problème aujourd'hui, il est là.
Avoir 2 millions de stocks et de leur vendre de 2, ouais, c'est un peu emmerdant parce qu'il faut financer 2 millions pour juste gagner 200 000, c'est un peu emmerdant. Et donc, il est là le souci. Non.
Et donc, je. Après, je sais pas si le podcast, mais il y a des gens qui critiquent tout.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le taux horaire d'un collaborateur, plus son taux horaire est confortable, et mieux il va gagner.
Bah parce qu'indirectement, il est commissionné sur le chiffre d'affaires.
Ben oui, mais aujourd'hui, par exemple, je vais pas dire, voilà, t'achètes un plat du jour à 5,50 € dans un food,
ouais.
Et tu vas au prénom, comme tu me disais tout à l'heure, tu vas avoir un plat chaud, avec une quantité sympathique.
Un cadre.
Mais par contre, lui, il va vendre ça 21 €. Donc sa masse, ça va être son chiffre d'affaires d'être plus élevé. Il va pouvoir payer plus facilement ses collaborateurs. Il va pouvoir acheter de la cam, faire quelque chose de sympa. Si t'as pas ce point mort de qualité, tu pourras pas payer tes collaborateurs. T'auras un endroit de merde où t'auras et puis ça ira pas quoi. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai que le coût. Et on le calcule.
Et pour revenir à ce premier achat, justement, en termes de pourcentage d'apport perso, les banquiers demandaient quoi? T'avais demandé quoi à l'époque? Rien. Il y avait la caution de ton ancien boss et puis point quoi. Et aujourd'hui, bon, ça s'est un peu durci. Et justement, pour le rachat des,
oui
des
non.
ciseaux, t'avais mis combien d'apports?
Pas grand chose.
Pas grand chose.
Si, j'avais fait un apport. Je sais plus exact. Ça fait 10 ans.
Ouais.
C'est surtout que j'ai perdu un fort pourcentage de chiffre d'affaires.
Ouais, suite à la reprise.
Mmh.
Ouais.
Mais on savait ce qu'on voulait en faire. C'est pour ça que je te dis, on savait ce qu'on voulait en faire. Je pensais pas autant. Mmh. Voilà. Parce que mon simple prédécesseur avait perdu de l'argent parce qu'il y en a deux qui sont installés là-bas. Et puis voilà, on va pas remettre machin, un truc, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça va.
Ouais.
Ça va, même.
Et justement, si c'était à refaire, tu referais tout pareil ou qu'est-ce que tu changerais?
Aujourd'hui, ouais. Ben là tout à l'heure j'ai un rendez-vous.
Pour un rachat d'un autre magasin potentiellement.
Pour voir, je sais
pour
pas.
Pour voir. On a des
projets et je sais pas. Ça dépendra des personnes qu'il y a dedans. Ouais. Ça dépendra de l'emplacement et ce que l'on peut en faire. Peut-être pas.
Ouais, je te harcèle de questions et je vais pas t'embêter trop parce que j'imagine que t'as des rendez-vous dans la foulée. On a pris un peu de retard. Mais aujourd'hui, est-ce que comme dans d'autres secteurs d'activité, t'as une tendance au grossissement des structures? Et quand je dis grossissement, c'est les gars ont de plus en plus de magasins ou les magasins deviennent de plus en plus gros. Alors, les magasins deviennent de plus en plus gros, vous êtes contraint, il y a 4 murs. Je veux dire, si tu veux mettre 30 personnes dans ton magasin en centre-ville, tu n'y arriveras jamais. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la tendance est justement à avoir 2-3 points de vente, passe-moi le terme, supplémentaires pour pouvoir potentiellement faire tourner les équipes et puis mieux gérer tout ça? Ou est-ce qu'il y a encore de la place pour l'artisan qui est tout seul dans son... tu vois ce que je veux dire?
Je suis entre les deux. Ce que tu viens de me dire.
Ouais,
entre les deux.
Est-ce que entre les deux est tenable?
Ouais.
Ouais.
Ouais, parce que tu baisses. Bah, si tu fais deux structures différentes avec. Tu mets Paul. Enfin, au sable, c'est peut-être un peu plus facile de le faire. Mais tu mutualises tous les efforts dans un seul endroit. Mmh. Donc, tu te mets un bel emplacement.
Ouais.
Et là, je pense que tu peux. Ouais. Mais souvent, les comptables, et je suis d'accord avec eux, ils me disent. Loyer, stock, masse salariale.
Ouais. Pour analyser le truc.
Bah pour pouvoir te dire bah oui c'est fiable ou pas fiable quoi.
dernière chose.
Et le stock.
Dernière chose justement avant de passer sur quelques aspects un peu plus perso pour terminer au niveau justement recrutement et masse salariale, t'arrives à recruter? T'as besoin de recruter ou pas?
Bah je cherche 2 personnes au sable.
Oui. Donc, tu as besoin de recruter.
Ouais, et j'ai
donc,
toujours
si,
besoin, ouais.
Et donc, si tu cherches, c'est que ce n'est pas si facile.
Le marché est compliqué.
Qu'est-ce qui fait la diff? Pourquoi il faut venir chez toi?
Plutôt travail.
Pour une coiffeuse ou un coiffeur qui cherche un employeur.
Je paierai une bière, un de ces quatre, et je t'expliquerai pourquoi tu vas venir au petit ciseau. Parce que je sais pas finaliser mon histoire de l'identité des petits ciseaux.
Ouais, ok.
Je suis en train de la travailler. Et avec mes collaborateurs, parce que je suis pas tout seul.
Est-ce qu'on peut parler de marque employeur? Peut-être?
Je suis pas marque employeur, c'est un état d'esprit, c'est une ambiance, c'est un confort et
tellement sérieusement, on est presque sectaire là.
Après, mais c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, là, on a fait une embauche il y a pas longtemps et, ben, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, la semaine dernière.
Mm.
Et en fin de compte, la jeune fille, elle vient parce que quand elle est rentrée dans le salon, ouais. Elle s'est sentie bien.
Ouais.
Ça tient un peu de choses. Hein.
Oui, c'est ce que j'allais te dire.
Pourquoi? Si, on sait pourquoi. On sait pourquoi.
Et tu pars du principe aussi que globalement, les salariés dans ton secteur d'activité, dans ton métier, savent faire leur taf et font le taf correctement.
Où ça? Dans mes salons?
Dans le milieu de la coiffure. Parce que, pour transposer avec notre secteur d'activité, un bon collaborateur comptable chef de mission chez nous, bah c'est pas facile à trouver. Non. Si tu veux, d'un point de vue métier. Et j'ai envie de te dire, est-ce que toi, dans ton secteur d'activité, quelqu'un qui fait des belles coupes, qui fait le taf correctement, est-ce que c'est compliqué à trouver ou pas? Parce qu'il y a non seulement cette histoire, il faut que la personne se sente bien et qu'elle soit dans l'ambiance de l'entreprise, ok, mais il y a aussi le béaba métier, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas travailler au petit ciseau. C'est pas prétentieux, hein, parce que l'équipe dit non. Non, oui, ah oui, c'est là, oui, non, non. Et on partage, c'est un travail. Mais je suis quand même chef d'orchestre. Hein. C'est moi le manager, j'avance. Mais je ciblerai quand même aujourd'hui sur l'envie, la motivation de la personne. Parce que si elle a envie, si elle est motivée...
Tout s'apprend.
Voilà.
Ouais.
T'as tout trouvé.
Oui, je suis globalement...
Donc après, une fille qui coupe bien, mais qui n'a pas d'esprit d'équipe et qui est individualiste, puis qui me dit « c'est ma clientèle, c'est moi qui la coiffe mieux que mon voisin », j'ai envie de lui dire...
Ouais. Vous n'avez pas de photo. Je suis en train de faire un geste pas beau, mais on a tous compris. Non, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que là, t'as quand même aussi le temps encore de former les gens un petit peu.
Si j'ai encore le temps,
ouais.
Je prends le temps.
Ouais, bonne réponse.
Je prends le temps.
Bonne réponse.
Parce que il me reste 7 ans à bosser.
Ouais.
Voilà, ça c'est clair. On me l'a dit l'autre jour. Ma femme m'a dit, tiens, j'ai fait ton truc, il te reste 7 ans.
Ah, t'as été sur ton site retraite en ligne.
7 ans, ouais. Mais aujourd'hui,
en
voilà.
En même temps, tu seras carrière longue, hein, clairement.
Ah, mais oui, bien sûr. Mais voilà, et puis j'ai des jeunes aujourd'hui qui ont envie, et qui ont envie, qui apprennent tous les jours, qui se donnent les moyens, et... Ouais. Et je...
Non, mais la difficulté quand même dans votre métier, c'est qu'en fait, t'as des clients patients, je voulais dire, qui ne peuvent pas être des cobayes. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, autant je suis ultra, enfin, j'estime être ultra tolérant, patient et vraiment proactif en termes de formation. Je le fais au cabinet quand même. Hein.
Ouais, je pense que
autant quand je vais chez le coiffeur, il est hors de question qu'il y ait un jeune qui se fasse la main sur moi. Non pas que je veuille pas qu'il se fasse la main, c'est juste que moi j'ai un quart d'heure à passer, il faut que ça torpille, il faut que dans un quart d'heure je sois sorti. Tu vois? Et je me dis, ça c'est quand même quelque chose aussi de particulier que vous devez avoir à gérer, c'est que vous allez avoir des gens que vous allez continuer de former hein, sur des vrais clients. Tu vois? Où il y a des faux clients? Enfin, où, comme, tu vois ce que je veux dire?
Non, non, alors c'est pas des faux clients, c'est des personnes qui sont mises au courant, qui savent.
Ah oui, il y a ça.
C'est, voilà, okay. C'est, on appelle ça des trainings.
J'avais pas cette notion-là. J'ai jamais été traîneur, moi.
Non, mais c'est training. Et puis, bon, on leur demande juste une légère participation sur certaines prestations.
Ouais, pour payer la matière première, quoi.
Voilà. Mm. Et puis, autrement, ils apprennent. On leur explique, on leur décortique tout. On leur apprend à faire une coupe.
Ah, okay. Je connaissais même pas ça.
Si, si, au contraire. Mm. Au contraire. Puis, elles sont friandes. Les deux que j'ai là aujourd'hui, les deux jeunes que j'ai, elles sont friandes et elles ont envie. Et par contre, il y a certaines fois, je leur dis, on va arrêter ça et on va se focaliser sur d'autres prestations. Vous serez plus à l'aise, vous avez envie. Et quand on leur dit, quand elles ont le sourire jusque-là, je dis, ah, c'est bon, on y va. Ouais. Mais autrement, voilà.
Ouais.
À nous, avec Nadia, avec les bilans individuels, ma vision parce que ça, Nadia n'est pas coiffeuse, hein, et ma vision de la coiffure, on arrive à avoir vraiment une osmose.
Ouais.
Un couple de travail, un couple, c'est la femme, c'est la maman de mes enfants.
Ok. Et justement, pour aller sur quelques aspects un peu perso, toi, tu travailles 5 jours semaine? 4 jours semaine?
Quand on est chef d'entreprise, on travaille tous les jours.
Ouais, on travaille 7 jours semaine, je suis d'accord avec toi. Non.
Non, mais je suis vraiment dans mon job 5 jours minimum. C'est minimum 5 jours à temps complet. Demain matin, je pars à 7h pour être à 8h30 sur les autres salons.
Ouais. Et, donc,
et je reviens à 20h.
Ouais. Donc là, il ne faut pas trop raisonner taux horaire parce que là, bon, après, c'est de la passion.
Non, c'est une passion. C'est, ouais. Voilà, je m'engage. Elles ont confiance en nous. Elles ont besoin on les a presque tous les jours au téléphone. Ah, ben ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, patron.
Ouais.
Ouais, c'est réclame. Ça fait plaisir, hein.
Ouais.
C'est gratifiant pour moi, quoi.
Je dis pas le contraire, très très clairement.
Je...
Le Et le week-end, alors le week-end, vous, vous bossez le samedi, mais tes jours off,
c'est le dimanche.
C'est quoi ta soupape de décompression? Je crois qu'on a un truc en commun au niveau de la course à pied.
Alors, j'ai pas les mêmes performances que toi.
Non, mais moi, je...
Non, mais non, mais non. Et... Je t'ai vu courir l'autre jour et j'ai dit, putain, faut que j'arrête de courir. Non, moi, mon loisir et en fin de compte... alors, vraiment, ma soupape, c'est, je suis vice-président de l'association du Jockey Club Sablé, pour leur faire un petit peu de pub quand même, l'histoire.
Club et de, historique des sables.
De courir avec des gens qui ont, au niveau classe sociale, complètement différent. Il y en a certains, je sais même pas comment ils s'appellent. D'autres, je sais même pas ce qu'ils font comme métier. Et ça m'importe peu. Mais par contre, on a la même passion, c'est qu'en fin de compte, on veut faire des petites compétitions loisirs, voire plus trail que route, et on échange sur tout. Voilà.
Non, mais ça
c'est
ça a toujours caractérisé le jog, c'est que c'est une bonne bande de copains, un grand groupe de coureurs. Mais c'est
130,
vrai. Que...
Hein.
Ouais, non, mais c'est
l'ADN.
Masse. C'est l'effet masse.
C'est l'ADN du club.
Voilà. Et non, mais vraiment, oui, un groupe, tu sens historique déjà. Et puis, je sais pas trop comment décrire ça, mais je me suis retrouvé dans les mots que tu utilisais avant en disant toute classe sociale différente. Une fois que vous avez mis votre veste orange, il y a plus de riches, il y a plus de pauvres, il y a plus de patrons ou de machin. Tout le monde y va.
Non, c'est ça. Enfin,
c'est propre à beaucoup d'associations, hein, très clairement. Mais au jog, vous avez ça. Et donc, toi, t'es vice-président.
Ouais.
Non, c'est quoi vos projets 2024?
Bah déjà de faire le 10 km.
Ouais.
Alors on l'organise tous les ans. Donc là c'est le 20 avril et de l'organiser et de que en fin de compte les gens arrivent à l'arrivée avec le sourire et qu'ils aient passé un bon moment. Et puis 2024 c'est on aimerait bien emmener à plusieurs un jeune en joëlette sur un 10 km pour déjà pour ces personnes-là qu'on a envie. Et puis déjà ça nous prend pas mal de temps, puis faire quelques sorties club.
Sorties club, voilà.
Voilà, ça on aime bien.
Vu comment les dossards partent à vue d'œil, j'espère pour vous que vous avez déjà prévu votre sortie club quelque part. Vous avez peut-être une idée?
Enfin, si tu me poses cette question-là, c'est qu'on a on a quand même le problème du GRP. Le GRP, c'est dans les Pyrénées.
Ouais.
Ça devient compliqué parce qu'en fin de compte, on s'inscrit et on attend qu'une semaine pour être au tirage au sort. C'est-à-dire qu'on a payé 1 euro et on n'est pas sûr d'être pris.
Ah bon? Parce que moi, je me suis inscrit justement au GRP cette année.
Nickel.
Tour des Lacs, là, le 80 km. Et là, il n'y avait pas de tirage au sort.
Non,
c'était premier arrivé, premier servi. C'était rapide. Je crois qu'il y en a eu pour une demi-heure ou une heure, un truc du genre.
Moi, c'est mon fils qui le fait.
Ouais. Et toi, tu as une autre épreuve du week-end où, par contre, c'est sur tirage au sort.
Mais j'ai voulu m'inscrire et j'ai pas été sélectionné.
Et même en passant groupe, quand je dis groupe, association, disant on vous amène 20 coureurs, il n'y a pas moyen de s'organiser.
Ouais. On n'a pas été pris.
Ok.
Donc, c'est comme ça. Donc, ça nous saoule un peu dans le club. Là.
Ouais.
Donc, on a trouvé des courses. Là, je suis inscrit pour un 30 à Espelette. Là, il y a de la place.
Ouais.
Et à l'arrivée, voilà, on a fait beaucoup les Templiers, qui est un bel endroit, un endroit magnifique. Pour des sorties club, il y en a pour tout le monde, pour débutants ou confirmés. Et puis, voilà, notre objectif, c'est des sorties club et puis d'apporter un peu plus d'entraînement à nos adhérents. On a fait des conférences avec des personnes qualifiées sur le bien-être, comment s'entraîner, comment gérer ses appuis. Et puis on sensibilise un entraîneur aussi, mais qualifié.
Un adhérent du club qui va, non?
Alors on a les adhérents du club et puis on a un jeune qui vient de l'extérieur.
D'accord.
Voilà, ça y est, on est en train de mettre ça en place. Surtout un projet de début 2024-2025. On cherche une personne. On en a trouvé une, mais je ne sais pas si ça va lui plaire ou si ça va nous plaire. On est en test.
Ok.
Mais il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de bien-être et d'envie. Quand je vois parce qu'on a sur le site, on a toutes les courses où les gens se sont inscrits.
Ouais.
C'est impressionnant. Le nombre de personnes qui font les courses. C'est fou.
Et t'essayes de transposer un peu dans ton club. Enfin, c'est pas ton club, mais dans le club auquel t'appartiens, un peu la même philosophie et l'état d'esprit que t'as dans tes salons, quoi. Bienveillance et...
Mais t'as une charmante hôtesse dans ton entreprise qui s'appelle Maureen.
Oui.
Et c'est grâce à elle que je suis au club. Et c'est grâce à elle qui m'a transmis cette... Enfin, j'ai cette envie, mais qui m'a transmis ses valeurs. Et par respect, parce qu'elle a été présidente, par respect pour elle, on se dit, on en discutait encore tout à l'heure, on reste au club pour ça.
Ouais.
Ouais.
Non, mais ça fait partie des bonnes valeurs et tout ça. Et c'est vrai que au sein du cabinet, le sport, la course à pied, fait partie des valeurs dans l'entreprise. Et ça, c'est indéniable. Pour terminer, je vais te libérer après. Est-ce que toi qui es un mec du coin quand même, t'aurais un bon plan à nous partager, que ça soit un bon plan activité, un bon plan resto ou quoi que ce soit sur le pays des Olonnes pour les gens qui auraient eu le courage d'écouter cet épisode jusqu'à la fin.
Ouais, parce qu'ils vont, ça va être lourd hein, pour eux.
Non, non.
Il y en a qui écoutent tout ça, tout ce qu'on vient de dire.
Il y en a.
Ben merci messieurs. M'avoir écouté.
Non, mais l'objectif aussi, c'est tu vois, tu peux avoir des gens qui travaillent dans les salons de coiffure, qui se tâtent pour justement soit trouver un nouveau patron, soit se lancer à leur compte. Et ben tu vois, c'est comme ça que les gens se retrouvent à écouter ce genre de dialogue jusqu'à la fin, des fois.
Il y a des endroits où j'ai été invité. C'est le restaurant à une étoile au Sable d'Olonne. J'y suis allé il y a 15 jours.
Ouais.
J'ai passé un très très bon moment et ça m'a rappelé les valeurs ajoutées de mon métier.
En centre-ville près des Halles,
ouais.
À la Bissou.
Ouais.
Voilà.
Et j'ai passé un très très bon moment. Ça m'a fait du bien de dire ça existe encore la qualité.
Ah bah oui.
Oui, mais attention, oui, c'est que des fois on peut s'écarter parce qu'on ne baigne plus dedans.
Ouais.
Et là, ça m'a permis de me dire waouh, bien, très très bien. Et en plus, j'aime bien sa cuisine. J'ai aimé sa cuisine, voilà. Et puis autrement, on a les bons plans au Sable d'Olonne. Je vais être très général, mais et ça me tient à cœur. Alors, je suis pas politique, mais la mairie a fait énormément d'efforts pour le stationnement du centre-ville, payant et non payant. Hein, c'est beaucoup moins cher, il y a beaucoup plus de places. Vous pouvez venir en voiture en centre-ville avec des horaires et vous allez rien payer. Et on a un super centre-ville au Sable d'Olonne avec des commerçants qui se donnent les moyens d'offrir des belles prestations, on a une variété de commerces et sincèrement ça fait une belle conjugaison entre les grandes surfaces qu'il y a tout autour et le centre-ville. Je trouve qu'on a au Sable d'Olonne on a vraiment un beau centre-ville où il y a des gens qui aiment bien se promener.
Ouais.
Et on a des enseignes qui sont très attrayantes. Donc, bon, voilà. J'aime vraiment ce lieu-là, quoi.
Hymne aux commerçants du centre-ville.
Ouais, mais ils le méritent parce que il y a eu beaucoup de sujets sur le stationnement et tout. Donc, ça a été reformulé. Et puis, achetez un vélo électrique et promenez-vous dans le centre-ville, quoi.
Ouais.
De toute façon, c'est bien. Aujourd'hui, je circule tous les jours en vélo. Je vais au travail en vélo. J'ai la chance de pouvoir y aller. Mais il y en a qui viennent de plus en plus loin. Et l'autre jour, je suis allé courir à 6h30. Et j'ai vu plus de vélos, de gens d'aller embaucher en vélo que de voitures.
Mais d'un autre côté, quand tu fais parce que nous, on n'est pas sur des grandes distances en termes de kilomètres, et c'est vrai que quand tu fais, tu mets bout à bout le temps de trajet vélo et le temps de trajet voiture, le temps machin, souvent, ça se joue à rien du tout, quoi.
À rien du tout.
Et moi, j'habite pas loin du tout, et c'est vrai que quand je viens en voiture, je mets 10 minutes, quoi, même pas, 9-10 minutes. Quand je viens en vélo, je mets 12-13, quoi. Et donc, tu te dis...
Voilà. Et en plus, on a de plus en plus de pistes cyclables.
Et en plus, ça roule chez nous.
Ouais, ça roule bien.
Mais... Ouais.
Donc, les bons plans, voilà. Le bon plan, c'est, je pense que c'est ça. C'est ça pour moi.
Ok. Bon, bah, merci beaucoup, David, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour tous les éclairages métiers que tu as pu nous.
J'espère que je n'ai pas raconté
diffuser.
Trop de bêtises.
Bah, de toute façon, au niveau du métier, ce n'est pas moi qui vais te reprendre. Hein. Voilà. Au niveau compta, les peu de chiffres qu'on a envoyés, je ne pense pas qu'il y ait de méga erreurs. Et puis, de toute façon, ce n'est pas grave, on essaie.
Non. Je pense que sur les chiffres.
Et puis, peu importe, on est là pour échanger. Et puis, ça arrive à tout le monde de de faire 2-3 imperfections et tout, mais l'idée c'était de donner un peu, comme je dis souvent, des grandes masses. Faut que les gens ils comprennent un petit peu comment ça se construit, un compte de résultat, le fait que chez toi la masse salariale c'est un point important. On a pas beaucoup parlé de justement les produits que vous êtes amené à pouvoir également vendre en plus des coupes de temps en temps, mais bon, ça, peu importe. Enfin voilà, si jamais vous voulez aller passer un bon moment en centre-ville, n'hésitez pas à aller voir chez David, comment ça se passe. Attends, t'as un des plus beaux emplacements des Sables d'Olonne quand même, faut pas se mentir.
Et je suis propriétaire des murs.
En plus, bravo. Sur les bons conseils de ton expert comptable, je ne suis
fois,
pas.
Hein. Non, mais c'est ouais. La première fois
c'est vrai.
Que depuis que nous sommes installés avec Nadia, qu'on a réussi à acheter les murs.
Et donc voilà, et tu vas pouvoir envisager ta retraite un peu plus sereinement d'ici 7 ans, comme tu nous
disais. Ça laisse un confort, ouais, bah ça, oui, c'est sûr. Puis, ouais. Puis on est chez nous. Ouais. C'est vrai qu'on attache cette importance-là, vraiment. Enfin, c'est pas un petit achat, mais voilà. Puis on est propriétaire d'un fonds de commerce au centre-ville des Sables d'Olonne.
C'est propre.
Ah, c'est bien.
Bon, allez, bonne fin de journée à toi, David, et merci.
Merci
pour
à toi de m'avoir reçu dans ton entreprise. Hein. C'est vrai que c'était.
Oui, t'es dans la belle salle de réunion, Belle Eden. Voilà.
T'as un bel écran.
Allez, salut.
À bientôt.
Si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a plu. Du moins, j'espère qu'il vous aura apporté une vision enthousiasmante du métier et qu'il aura un petit peu balayé les idées reçues. En tout cas, un grand merci pour être resté jusqu'au bout. Vous faites partie de nos auditeurs préférés et assidus. N'hésitez pas, si vous avez quelques minutes à nous accorder, à mettre un commentaire et puis 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, etc. Je vous remercie à nouveau. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures comptables. Salut !